Témoignage toujours poignant depuis le 7 octobre. Lise, dites-nous ce que nous allons pouvoir écouter comme témoignage ce matin.
Alors, on va écouter Adir, qui est l'un des survivants du festival de musique Nova, qui s'est tenu à Reim le 7 octobre. Il était guide volontaire à Tel Aviv Expo, l'événement éphémère commémoratif qui a été organisé à la mémoire des victimes de cette rave party. C'est là qu'on l'a rencontré et vous allez essayer de visualiser avec lui ses explications sur le site.
D'abord là-bas c'est le bar. Vous pouvez voir le comptoir du bar exactement tel qu'il était sur le terrain de la fête Nova. Il a été restitué le plus fidèlement possible avec le bordel qui y régnait. Je suppose que tout le monde a vu la vidéo de cauchemar du policier qui arrive sur les lieux après le massacre et voit le bar encombré de cadavres. Le comptoir a été restitué tel quel, avec les portefeuilles laissés dessus, plein d'argent, des verres, des bières ouvertes. Les choses ont été emmenées ici exactement telles qu'elles ont été trouvées sur le terrain. Ces rideaux avec des ailes, par contre, ça n'y était pas. C'est une partie des objets de commémoration que nous avons choisis en mémoire de tous les festivaliers qui sont partis au ciel. Alors qu'ils étaient venus dans un endroit où ils se croyaient être en sécurité et libres, aucun ne pensait que ce serait sa dernière heure. C'est notre façon de leur rendre hommage, en plus de ce que vous allez voir par la suite. Une bonne partie des personnes que vous voyez sur les écrans, dans les vidéos, ont été blessées ou assassinées, et certains ont réussi à s'enfuir. Plus de la moitié des messages que vous voyez s'afficher sur ces téléphones géants n'ont pas encore été publiés, ni dans les réseaux, ni sur Telegram, ni dans les journaux ou les télévisions. Ce sont des choses que l'on a récoltées directement sur les téléphones des participants de la fête. Beaucoup ne sont pas encore capables de parler de ça, et encore moins de partager ces histoires. Vous y verrez aussi bien des gens qui sont avec nous et des gens qui ne sont plus de ce monde. Vous avez aussi un aperçu des activités que nous avons montrées, notamment à Binyamina et Kohava Yam, pour les survivants du massacre. Après l'attentat, on a créé ces endroits pour réunir tous nos survivants, qu'ils aient un endroit pour se retrouver, partager ce qu'ils ont sur le cœur, sentir qu'il y a des gens qui comprennent exactement de quoi ils parlent, pas pour dénigrer quoi que ce soit. C'est vraiment un endroit ouvert où tu ne rencontres que des thérapeutes ou des gens qui ont vécu plus ou moins la même chose que toi. Un endroit ouvert où ils peuvent se sentir à l'aise. Et là, je vais toucher un point sensible pour moi. On arrive à la piste du Mushroom Project. Chaque personne qui rentrait ici faisait une danse personnelle et cool. Car la musique que nous aimons, ce n'est pas comme tout le monde pense, juste des boum boum. C'est une piste de danse plus obscure, moins d'éclairage, avec un accent mis sur des projections de vidéos. Cette piste nous touche plus particulièrement à moi et à mon ami Elad. Vous pouvez regarder à côté des haut-parleurs. Il y a des portraits de nos chers frères, Osher et Michael Vaknin, des frères jumeaux qui sont les créateurs du Mushroom Project. Cela représente 8 années de production de spectacles en continu qui ont apporté leur pierre à l'édifice de la musique trans dans tout Israël, du nord au sud. Ils ont mis l'accent sur les personnes qui les accompagnaient, sur la qualité du son, sur le décor. Ils ont tout prévu pour que le danseur ait tout ce qu'il veut. Ils se ressemblaient tellement que tu les confondais. Je venais vers Osher et je lui demandais « Comment tu vas, Miko ?» et vice-versa. La bonté se lisait sur leur visage. Ils donnaient tout, leur cœur et leur âme, dans ce projet. Que Dieu les venge. Miko, il avait une fille, Une merveilleuse petite princesse qui, à notre grand regret, reste seule avec sa mère. Les deux frères avaient perdu leur père il n'y a pas longtemps et leur mère doit surmonter le deuil non seulement de son mari, mais aussi celui de ses deux fils. Leur associé dans la production, Elkana, est jusqu'à présent otage à Gaza et on ne sait rien sur son sort. C'est dur pour moi d'en parler. On va faire un demi-tour à droite. C'est un endroit qui n'était pas à la fête. C'est un coin de commémoration que nous avons fait pour nos danseurs, nos amis, nos familles. Je suis sûr que vous allez reconnaître des visages que vous avez vus aux informations. Par exemple, Shani Luk, avec la nationalité allemande. Johnny, mon frère, qui n'est plus là. Beaucoup de noms que vous avez appris à la télé. Je vais vous laisser regarder ici. Il y a une table sur le côté avec les feutres et j'espère qu'il y a aussi des feuilles. Oui, il y a des feuilles chez Elad et il va les mettre sur la table. Celui qui sent qu'il veut partager ses sentiments en écrivant ou dessinant là-dessus est invité à le faire. Dans la vie, tout le monde me regarde parce que je porte des bijoux, 1 million de chaînes, des tatouages, etc. On se demande même si je suis drogué, mais en vrai, je travaille pour les forces de sécurité et pour les pompiers. Dans ma routine de tous les jours, je suis proche de la police. Et il y a justement ici une place consacrée à la mémoire des policiers qui se sont sacrifiés pour obtenir le maximum d'informations sur le terrain et sauver chaque personne qu'ils pensaient vivante. C'est quelque chose sur laquelle je reviens toujours et d'autres n'en parleront peut-être pas, mais moi, je travaille en collaboration avec eux quotidiennement, donc je le dis. Ils ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils méritent, ni maintenant, ni ces dernières années. Ce sont des gens qui gagnent un salaire minimum et on attend d'eux qu'ils sacrifient leur vie. C'est légitime car la police est un organisme de défense qui doit protéger les citoyens. Mais les policiers ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Ils ne gagnent presque rien. Ces photos que vous voyez, ce sont des gens qui sont allés spontanément chercher leur uniforme à la maison sans attendre les ordres. Ou alors ils étaient en service et ils ont décidé d'aller au contact direct avec l'ennemi. Même quand ils ont compris que cela leur coûterait la vie pour me sauver moi ou pour sauver mon frère ou un des survivants. Ils méritent notre pleine reconnaissance. Il y a une table en leur souvenir où on voit l'uniforme d'un policier qui était sur place, brûlé et criblé de balles. Et maintenant, là-bas, même si je sais que c'est compliqué de le dire comme ça, mais je ne vois pas d'autre moyen de l'exprimer. De ce côté-là, on a un endroit où on se sent revenu comme au temps de la Shoah. C'est là-bas où il y a les tables avec des chaussures, des tables avec des lunettes, des sous-vêtements, des produits hygiéniques, des habits de toutes sortes appartenant à des personnes qui ne sont plus de ce monde et d'autres qui sont encore là. Il y a des familles qui sont venues et qui ont identifié leurs objets et qui n'étaient pas capables de continuer leur vie ou alors qui ne pouvaient même pas regarder tout ça. Celui qui fouille un peu et qui regarde sur les tables comprendra qu'il y a des objets qui ont été ramassés dans des endroits difficiles, des sacs avec des trous causés par les balles de fusil, des habits brûlés et tout ça. Il y a une caisse de clés de voiture dont certaines sont inutilisables, comme la mienne qui est foutue. Tout le matériel qui est là-bas a passé le filtre de l'unité d'enquête de la police pour que personne ne puisse s'approprier quelque chose qui n'est pas à lui. Le but, c'est de permettre aux survivants et à leurs familles qui viennent ici de pouvoir retrouver et reprendre ce qui leur appartient s'ils en ont envie. Une autre partie qui est difficile à surmonter, ce sont les écrans. Sur les écrans, nous pourrons voir les visages de mes chers frères, de nos familles. Ils méritent tous les honneurs pour ce qu'ils ont subi. Ils ne mentiront pas, ils ne disparaîtront pas, ils font partie de la mémoire collective. Beaucoup me demandent pourquoi vous avez décidé de faire cet événement, justement à Réim. La fête a été organisée dans un autre endroit. Mais au dernier moment, 24 heures avant, nous avons reçu une annonce disant « Soit l'événement change de place, soit tout l'argent que tu as investi sera perdu. » Nous avons essayé de leur parler poliment pour trouver une solution au lieu de jeter des millions dans la poubelle. Jeudi soir avait commencé une fête du nom de Unity à Réim avec environ 2000 et quelques personnes. On nous a dit qu'ils avaient la permission de rester 48 heures, mais qu'ils faisaient ça seulement sur 24 heures. Donc ils nous ont dit, si vous ne voulez pas foutre en l'air tout votre festival, trouvez un arrangement avec eux et faites-le là-bas. Mais pas comme ça en vitesse, genre on apporte des mégaphones et c'est bon. Non, avec les moyens.
Avec les mêmes moyens, les mêmes conditions, le même nombre de policiers, de pompiers, les mêmes issues de secours, les ambulances, les forces de sécurité, etc. Une grande quantité de critères pour organiser la fête.
On a eu toutes les autorisations. Et pour finir, je souhaite qu'on prie ensemble pour le retour des otages et la santé de tous nos soldats. Merci de m'avoir écouté. Ça m'aide à tenir d'être ici, à vous parler.